Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. La désignation des secrétaires d'État prend du temps. Le gouvernement de Jean Castex n'est pas entièrement constitué. Une manœuvre qui semble politique.
C'est un peu le troisième tour des municipales. L'élection des présidents de métropole zoom sur le cas du Grand Paris.
La bio se porte bien. L'agriculture biologique connaît une nouvelle année record en France avec une croissance à deux chiffres, on vous explique.
Emmanuel Macron veut essayer de résoudre l'un des conflits les plus épineux d'Europe, celui qui oppose la Serbie au Kosovo. Un sommet a lieu aujourd'hui en visioconférence.
L'ancienne basilique Sainte-Sophie pourrait perdre aujourd'hui son statut de musée et devenir une mosquée. Cette transformation fait polémique. Le gouvernement n'est pas tout à fait au complet. Il manque encore les secrétaires d'État dont la désignation se fait attendre et il faudra patienter plus longtemps que prévu. On attendait leur nom en cette fin de semaine. La liste ne sera pas dévoilée tout de suite. Pour certains, c'est une combine politique, Rosalie Lafarge.
À l'Élysée, on l'assure, si cela prend du temps, c'est que rien n'est simple. Il faut des consultations, de la réflexion, des vérifications, choisir quel poste on garde, avec quel périmètre, quel titulaire reste, quel autre s'en va, le tout en respectant les équilibres de la majorité et sans faire exploser le nombre de ministres au sens large. Mais à en croire certains parlementaires, le principal problème n'est pas là. La semaine prochaine, le président doit donner les détails de son nouveau chemin, le 14 juillet. Le lendemain, le Premier ministre prononce sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. À l'issue de cette déclaration, les députés sont appelés à voter, à accorder ou non leur confiance. Or aujourd'hui, plusieurs parlementaires déjà déçus de ne pas être ministres se voient bien sur la liste de rattrapage, celle des secrétaires d'État. Le risque, si la liste est dévoilée avant, c'est que les recalés s'abstiennent au moment de ce vote. Et ça, l'exécutif n'en a évidemment pas très envie. Personne n'osera moufter du coup, c'est sûr, peste un marcheur agacé. C'est à cause des enfants gâtés, ils ont gagné au loto en 2017 et les arrogants en veulent toujours plus, dit un autre à propos de ses collègues. On est effectivement dans une sorte de temps suspendu, reconnaît un député Modem. Le Modem qui par ailleurs n'entend pas être le parent pauvre de ses futures nominations. Un peu de reconnaissance, ça ne ferait pas de mal, glissent à l'envi les alliés jusqu'ici fidèles de la majorité.
Pendant ce temps, après les municipales, les élus locaux désignent leur président d'intercommunalité et de métropole. Martine Vassal, battue dans la course à la mairie de Marseille, a été réélue à la tête d'Aix-Marseille-Provence, tout comme Damien Castelin qui perd la métropole européenne de Lille. En Île-de-France, le Grand Paris revient à Patrick Ollier. Il avait perdu la primaire interne. L'institution existe avec peine depuis 4 ans dans un maillage déjà compliqué. Explication de Pierre Neveu.
Un grand machin, une coquille vide. Voilà en quelques mots comment est présentée la métropole du Grand Paris par une partie des élus d'Île-de-France, à commencer par Valérie Pécresse, la présidente de région. Et c'est ce grand machin que voulait réformer le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, favori du scrutin, proche de Valérie Pécresse, il se voyait déjà écrire l'acte 2 du Grand Paris.
Il est évident qu'il y a un fait métropolitain. Il est évident que la zone dense affronte des problématiques qui lui sont spécifiques. Il est évident aussi qu'aucune commune seule, aucun département seul, aucune agglo, aucun territoire, pas même la ville de Paris, pas même la région Île-de-France, ne peut être capable de gérer ses problèmes seuls.
Mais les jeux politiques, les fameuses alliances, ont eu raison de sa jeunesse. Alors qu'il n'était pas candidat au premier tour, le président sortant, Patrick Ollier, a tout à coup reçu le soutien de sa famille politique, des centristes et des socialistes, et donc en premier lieu, d'Anne Hidalgo, pour l'emporter. D'où les accusations de magouille de Vincent Jeanbrun, que récuse le vainqueur, Patrick Ollier.
Nous sommes dans une intercommunalité qui ne souffre pas de débats politiciens. Je suis républicain. La métropole a aujourd'hui un président qui est républicain. Je le dis à mes collègues, mais je sais travailler avec le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe communiste et avec mes amis de l'UDI que je tiens à remercier particulièrement.
Cette élection sonne comme une victoire pour Anne Hidalgo, faiseuse de roi qui conserve un poste de vice-présidente à la métropole, et comme une défaite pour sa rivale Valérie Pécresse à un an des régionales.
Pierre Neveu, et je corrige, Damien Castelin est bien réélu à la tête de la métropole européenne de Lille. L'état d'urgence sanitaire se termine officiellement ce soir, sauf en Guyane et à Mayotte. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a voté un troisième budget hier soir pour faire face à la crise du coronavirus. Ce projet de loi de finances rectificatives prévoit environ 45 milliards d'euros supplémentaires pour aider le tourisme, l'automobile et l'aéronautique notamment. Le ministre de la l'agriculture a beau avoir changé 4 fois en 3 ans, il n'y a pas de quoi perturber la bio. D'après les chiffres de l'agence bio dévoilés hier, le marché français de l'agriculture bio connaît encore une croissance à 2 chiffres et fait jeu égal avec l'Allemagne en termes de consommation. Il pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros, soit une augmentation de 13% à Anne-Lorchouin.
Pour Patrick Henry, président de l'agence bio qui promeut le développement de l'agriculture biologique, on peut désormais dire du marché du bio en France qu'il devient un marché de masse. Cette nouvelle tendance de consommation structure une production qui reste majoritairement française. Patrick Henry.
Les importations sont stables et la production suit, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a eu 300 000 hectares de plus en bio cette année avec des cultures, les grandes cultures, la vigne, les vergers, les fruits et légumes qui sont des secteurs qui se sont fortement développés et qui viennent répondre finalement à la demande. Donc on a un système qui est complètement vertueux puisqu'on a des consommateurs qui portent la production bio.
En 2019, la bio c'était donc 178 euros par an et par français avec une montée en flèche des produits d'épicerie et de boulangerie et une explosion des produits surgelés. Une tendance que la crise sanitaire n'a pas faite diminuer, au contraire. Consommer bio se répand donc et produire bio se développe également.
Tout le monde s'y met à la bio. Dans le monde coopératif, aujourd'hui, beaucoup de coopératives se mettent au bio. Alors certaines parce qu'elles ont vraiment envie, d'autres voient bien que leurs adhérents se convertissent, donc elles sont bien obligées de suivre. On a les deux attitudes, mais on a vraiment un changement où tout le monde est en train de s'y mettre. Et je pense que la bio peut être un très bon moteur de la nécessaire transformation de l'agriculture française pour passer à l'agroécologie, de façon à ce que l'agriculture française soit vraiment agroécologique demain. La bio peut être le bon moteur pour tirer tout le monde vers le haut.
Un argumentaire qui devrait être présenté sous peu dans le bureau du nouveau ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
France Culture 7h07, Margot Delpierre, Paris, tente de relancer le dialogue entre Serbes et Kosovars.
Les relations restent tendues entre Belgrade et Pristina, alors que la Serbie refuse toujours de reconnaître l'indépendance de son ancienne province à majorité albanaise. Pour essayer de résoudre leurs différends, le président Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel organisent un sommet en visioconférence, en présence donc du premier ministre kosovar, du président serbe et des représentants européens en charge du dossier. L'objectif est aussi d'assurer la stabilité dans cette région d'Europe, Marie-Pierre Véraud.
On ne se parle plus entre Pristina et Belgrade depuis plus d'un an. Le dialogue est initié par l'Union européenne pour apaiser les tensions entre la Serbie et le Kosovo est au point mort. Et le spectre d'un violent dérapage existe toujours, alors que l'OTAN maintient une force de paix au Kosovo. La France a donc décidé, avec l'Allemagne, de monter au créneau. Paris et Berlin s'inquiètent aussi de la volonté de Donald Trump de mettre son nez dans les Balkans et d'obtenir au forceps une réconciliation, quitte à modifier les frontières, ce qui affole les chancelleries européennes. L'Europe tente donc de reprendre la main. Le sommet de Paris en visioconférence précède la reprise formelle de négociations ce dimanche à Bruxelles, ce que l'on appelle le dialogue de normalisation. Les mots révèlent la prudence qui est de mise. Nous sommes loin d'une reconnaissance du Kosovo par la Serbie et d'un voisinage apaisé. Mais Paris, Berlin et Bruxelles agitent une carotte, celle d'une intégration à terme dans l'Union pour les deux anciens belligérants. Reste que les deux dirigeants conviés par Emmanuel Macron sont affaiblis, le Kosovar à la tête d'un gouvernement fragile, le Serbe en butte à des manifestations qui ont dégénéré ces derniers jours.
Le Conseil d'État turc dira aujourd'hui s'il révoque le statut de musée accordé à Sainte-Sophie. L'ex-basilique située à Istanbul pourrait être transformée en mosquée, ce que redoutent de nombreux chrétiens. Il appartiendra au président Recep Tayyip Erdogan de trancher. Changer sa nature serait un signe de repli de la part de la Turquie, estime Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, association d'aide aux chrétiens d'Orient.
C'est une basilique chrétienne qui, depuis 1453, était mosquée et Atatürk, Mustafa Kemal, en a fait un musée en disant « Je veux offrir Sainte-Sophie à l'humanité tout entière ». Et ce statut était un élément de pacification sur les relations entre le monde orthodoxe et le monde musulman, entre le monde grec et le monde turc. Donc retourner au XIXe siècle, donc retourner à l'état de mosquée, serait un très mauvais signe, montrerait que la Turquie ne saurait plus qu'à capable d'offrir Sainte-Sophie à l'humanité. Ce serait donc de la part de la Turquie un repli. Laissons Sainte-Sophie dans sa dimension de culture. C'est un bâtiment qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO n'a pas été associée à cette décision. Donc nous appelons la Turquie à avoir cette hauteur de vue, cette ouverture d'esprit, de laisser Sainte-Sophie être un musée pour tous.
Monseigneur Pascal Gollnisch, propos recueillis par Christian Chesneau. Le temps se gâte aujourd'hui en France avec de la pluie sur la moitié nord du pays. Des orages sont attendus dans le sud-est cet après-midi. Au plus chaud, il fera 18 degrés à Cherbourg, 20 à Lille, 24 à Bordeaux, 28 à Strasbourg, 32 à Perpignan et 33 degrés à Lyon.